Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Et quand vous regardez la météo avec un peu plus d'attention, je voyais les chiffres hier pour le mois de janvier, puis on fait ces bilans régulièrement, on s'aperçoit que c'est un mois où les températures, somme toute, ont été quand même assez douces. Il n'y a pas de moins 20, là, je parle pas de refroidissement éolien, je parle d'une lecture réelle là, de la température. Et ça veut dire que pour la région de Montréal, par exemple, c'est un hiver jusqu'ici relativement doux. Je sais qu'il y a des experts qui font des projections en disant le mois de février va être beaucoup plus froid. Mais il y a deux ou trois conclusions qu'on peut tirer rapidement. Un, c'est vrai que c'est doux. Deuxièmement, l'hiver est pas fini. Et dans certains coins, on a eu de la neige quand même en quantité importante. Et pour compléter sur le climat, je vais ajouter ce matin cette compilation qui est faite par Copernicus concernant l'impact du réchauffement climatique sur les océans. Et c'est un niveau record de température avec 21 degrés en moyenne dans les eaux de surface. Ça a été atteint au mois d'août dernier. Et au niveau de la température pour le mois de janvier, c'est à peu près le même phénomène. Donc, c'est un symptôme assez clair du réchauffement et des conséquences majeures sur, par exemple, la capacité de l'océan de stocker le CO2. Et ça peut donner lieu donc à des températures inhabituelles dans des coins où on n'est pas non plus familier avec des températures comme ça plus élevées. Et on s'attend d'ailleurs à ce que le printemps, dans je dirais l'ensemble de la planète, soit marqué par encore des événements extrêmes de température. Et puis ce matin, on va parler avec le ministre de la Sécurité publique qui a présenté hier un plan, justement, de mesures d'urgence. Autrement dit, Québec veut se préparer de façon plus adéquate. Et là, je vais reprendre quelques clichés, là, être plus agile, plus proactif, pour justement, quand ça va se produire, parce que ça va se reproduire, on soit capable de se déployer. Il y a l'enjeu des municipalités. Moi, je me souviens, ça fait un bout, là, mais à l'époque du verglas, les municipalités cherchaient le plan d'urgence. Et j'ai parlé à des maires qui ont dit, on ne sait pas où est le plan d'urgence de la municipalité. Certains ont trouvé le plan dans un cartable caché, perdu quelque part dans le sous-sol de l'hôtel de ville. C'est comme, on ne l'a pas vu venir, on n'est pas prêt, mais on sait maintenant, avec l'expérience des années et des phénomènes récents, que c'est appelé à se reproduire. Et parler aux gens de l'Outaouais, parler aux gens, par exemple, du Grand Nord et tout ça. Et j'ai vu hier sur les réseaux sociaux cette espèce de tendance en disant « c'est ça, l'État va vouloir nous évacuer de force ». Les complotistes reprennent un peu de service en disant « vous savez, vous avez vu le gars à Chapelle, il a plaidé coupable, c'est lui qui a mis le feu ». Je comprends qu'il a mis le feu. Puis ça arrive là, que des gens soient responsables d'incendie. Mais la sécheresse et les conditions globales de l'environnement font en sorte que les incendies prennent du volume et accélèrent. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près tantôt. Crise du logement. Je vais essayer de développer une thématique ce matin, portefeuille. Les chiffres de la Société canadienne d'hypothèques et de logement nous montrent que la crise est réelle plus que jamais. Le taux d'inoccupation, c'est 1,5. La hausse moyenne des loyers, c'est autour de 8. Et ça touche toutes les grandes villes. Montréal, Toronto, Québec, il y a des endroits où c'est un peu moins, mais vous avez d'autres endroits où c'est pire. Donc, pour des gens qui cherchent un logement, il y a plein de gens qui en cherchent, là. Des gens qui veulent déménager dans un peu plus grand, des jeunes qui veulent quitter la maison, des immigrants qui arrivent, les prix explosent et phénomène de rareté. On a négligé tout le secteur de l'immobilier pendant des années Et on a beau annoncer des projets au compte-gouttes, puis des intentions. Dans les faits, c'est difficile de se trouver un toit et ça coûte de plus en plus cher. Premier constat. Deuxième constat, pour les propriétaires qui reçoivent actuellement les comptes de taxes, on sait qu'une des grandes qualités des administrations municipales, c'est de faire de la comptabilité assez créative, une gymnastique qui fait croire aux gens que, globalement, là, le compte de taxes, ça va être autour peut-être de l'inflation, tu sais, 5%. Dans le cas de Montréal, on oublie la portion de l'arrondissement. C'est mineur, mais ça compte. Et hier, faut croire qu'il y a bien des gens qui ont reçu dans les derniers jours leur compte de taxes. Ce sont des augmentations pour le résidentiel de 8-9% facilement, dans bien des cas. Des propriétaires de petits commerces qui se font encore augmenter, même s'il y a des entraves devant leur établissement. Des petits propriétaires, donc des PME, qui se font dire que leur compte d'électricité va augmenter de façon importante. Tu sais, on n'est pas dans du 2%, là. On est constamment, pour des entreprises, dans des augmentations de 5-10% pour ce qu'on appelle des coûts fixes, là. Et ça paraît, et ça fait mal sur le portefeuille. Donc, vous regardez tout le secteur du logement, je sais qu'il y a des variantes, mais les prix sont repartis à la hausse, nous dit-on, dans un bon nombre de catégories, malgré les taux d'intérêt soient élevés. Et on pense peut-être que d'ici la fin de l'année, il y aura une légère baisse, mais que ce sera surtout 2025. Et quand vous prenez tous ces facteurs-là ensemble, le panier d'épicerie, bon, l'inflation, les Américains hier qui ont dit « on va attendre avant de baisser les taux d'intérêt », est-ce que on va se faire frapper par une crise économique plus importante? Il y a des mises à pied. Je regarde le secteur des technologies à Montréal. Des gens qui perdent leur emploi. Si vous regardez ce qui se passe du côté de TVA, on sait que le syndicat s'est retiré de la table avec le conciliateur, la table de négo. Et là, on parle de rumeurs de lock-out. Et on sait qu'il y a eu toutes ces mises à pied, là, ces centaines de travailleurs à travers le Québec qui vont se retrouver au chômage. Pris isolément, vous vous dites, bon, ben c'est dans un secteur, c'est dans un milieu, mais globalement, il y a beaucoup d'entreprises qui en arrachent actuellement. Et des familles qui trouvent ça extrêmement difficile. Fait que quand les comptes de taxes nous arrivent sur la gueule, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Les taux d'intérêt, l'hypothèque et tout ça. Alors, votre portefeuille se vide à un rythme incroyable. Puis là, je voyais encore le même débat. Il faut arrêter de financer les villes avec les taxes municipales. Puis là, tu sais, l'argument qui est de dire, oui, mais votre propriété a pris de la valeur. Je comprends, mais je vis dedans et je ne l'ai pas vendue. Et si je fais un profit au moment de la vente, c'est pas imposable. C'est peut-être là, je sais qu'avec Luc Ferrandez, on a souvent jasé de ça, d'aller chercher une forme de revenu de taxe au moment de la vente. Mais des gens qui ont des revenus fixes ou presque, puis qui se retrouvent avec toutes ces augmentations, chauffage, donc électricité, les taxes municipales, ça devient de plus en plus lourd, évidemment. Et parler des immigrants tantôt, bon, le gouvernement fédéral accorde 100 millions de dollars pour les demandeurs d'asile, la facture de l'accueil de ces réfugiés. C'est pas ce que le Québec demande. Et on ne sent pas non plus, je dirais, une façon d'être plus efficace pour répartir à travers le Canada les demandeurs d'asile. Donc, c'est un financement supplémentaire et la somme fait partie d'une enveloppe de 360 millions qui a été annoncée par le ministre Mark Miller. Pour le Québec, c'est à peu près 100 millions. Mais je rappelle qu'on n'est pas loin du 50% de demandeurs d'asile qui passent par ici. Les médecins. Le Journal de Montréal nous donne des chiffres ce matin sur le nombre de médecins omnipraticiens, des médecins de famille, là, qui décident d'aller pratiquer au privé. Et les chiffres, ça demeure marginal quand vous regardez l'ensemble des médecins, mais il y a une tendance quand même. Pour la première fois, il y a plus de 500 médecins qui se sont désaffiliés du système public. C'est 4 fois plus qu'il y a 15 ans. Année après année, s'ajoutent des médecins qui, pour toutes sortes de raisons, décident d'aller travailler, d'ouvrir leur clinique ou d'aller travailler dans une clinique privée. Donc, si on prend des chiffres, on compare, là, en 2009, il y en avait 123, on est rendu au-dessus de 500. Et souvent, ce sont des jeunes médecins qui décident, après avoir goûté à l'expérience publique, d'aller travailler dans le privé. Puis il y a des cliniques qui sont très actives, vous entendez la pub ici, bon, Clinique Lacroix, ça recrute et ça ouvre des cliniques un peu partout au Québec. Et l'autre réalité, c'est que les gens sont prêts maintenant à payer. Comme écrivait un auditeur, j'ai payé toute ma vie pour mes animaux de compagnie. Ça se peut que je vais en mettre un peu de côté pour moi quand je suis pas capable d'avoir accès à mon médecin de famille. Tu sais, tu vas chez le vet, on t'explique que la consultation coûte tant, l'antibiotique va coûter tant, puis bon, t'aimes ton animal de compagnie, les vaccins, tu vas payer, c'est parfait. Tu sais, la facture là, médicale d'un chien ou d'un chat, ça peut grimper assez rapidement. Puis des parents qui, par exemple, ont un enjeu de santé avec un enfant le week-end, puis qui sont pas capables de se trouver une place, ben ils se tournent vers le privé, et l'offre est là. Évidemment, on parle pas des cas complexes. Évidemment, on n'est pas dans... Il y a quelques cliniques de chirurgie, je pense, en orthopédie. Mais souvent, ce sont des médecins qui font ce choix-là. Et c'est sûr que ça paraît. Puis la fédération, le syndicat répond, ben c'est pas très attrayant de travailler dans le secteur public. Et puis, les médecins, je vais compléter avec ça, s'inquiètent de voir des entreprises devenir propriétaires de cliniques médicales. Et là, tenez-vous bien, les docs voudraient que les cliniques médicales soient détenues par des médecins. Pour avoir une pharmacie au Québec, il faut que tu sois pharmacien. Tu peux pas, moi, je peux pas acheter une pharmacie demain. Ailleurs, tu peux. T'es un entrepreneur, tu dis, je m'achète une pharmacie, puis je fais travailler des pharmaciens. Puis là, au Québec, on dit, non, le droit de propriété, on le donne aux pharmaciens. Et les médecins veulent maintenant la même chose, et on veut éviter que ça devienne comme une business de soins. Et que quand c'est un entrepreneur privé, il va peut-être avoir, disons, la tendance à gérer ça plus serré, à pas tenir compte du bien-être des patients, puis à gérer un bureau de médecin comme un local dans un centre commercial. Donc, dans Le Devoir, vous pouvez lire ça ce matin. Très bien. Il y a Radio-Canada ce matin qui relance un peu le débat concernant l'Ozempic. Qui est remboursé aux patients qui souffrent de diabète de type 2. Et pour les personnes qui souhaitent perdre du poids et qui l'utilisent, ben c'est pas remboursé. Donc, ils doivent payer, puis c'est un traitement qui peut coûter quand même assez cher. Et ce débat-là, il est, je dirais, quand même sur la place publique depuis un certain temps. Et on sait qu'il y a eu des enjeux de pénurie de stock de ce médicament, de ce traitement. Et là, ben, il y a beaucoup de médecins qui disent qu'il faut penser à long terme. C'est-à-dire que si on arrive à générer des pertes de poids importantes chez nos patients, ben, ce sont des patients qui vont avoir une meilleure vie, une santé plus solide, et au final, vont coûter moins cher. Donc, c'est la notion de prévention. Et on le sait que, je dirais que dans l'univers politique, la prévention, là, oui, en théorie, dans les grands discours, mais tiens, on repousse ça plus tard. Alors, est-ce qu'on rembourse maintenant? Ça coûte cher. Ou si on se dit, ben, je serai pas là, puis ça sera quelqu'un d'autre qui paiera plus tard. Donc, et quand on parle de la RAMQ, c'est pour le système public, puis il y a aussi l'enjeu avec les compagnies d'assurance privée. Et je vous parle rapidement de la position de l'Alberta, de la première ministre hier, qui a annoncé Danielle Smith par le biais d'une vidéo. Son plan concernant les trans, les chirurgies de transition, les traitements aux hormones et le changement de nom. Et il y a eu des débats au Canada, Saskatchewan, mais ce qu'elle a annoncé assez clairement, c'est que les mineurs n'auront plus droit à des chirurgies et ce qu'on appelle les thérapies hormonales qui stoppent par exemple la puberté vont être interdites au moins de 16 ans. Et le changement de nom d'une personne mineure devra se faire avec le consentement des parents. C'est une tendance qu'on a vue se développer aux États-Unis. Je vous parlais de la Saskatchewan. Et l'Alberta est probablement la province qui va le plus loin. Et on va jusqu'à interdire, par exemple, des trans dans des compétitions, dans des Et avec raison, là. Avec raison, tu sais, une compétition où un homme est devenu une femme et s'en va compétitionner avec d'autres femmes, ça se peut qu'il y ait un enjeu, là, qui soit pas mal, que ça crée une forme d'inéquité. Alors, et comme on l'a vu dans d'autres provinces, on pourrait se servir de la clause nonobstant pour justement se soustraire à l'application de la Charte des droits. En Alberta, il y a déjà des groupes qui revendiquent ça. Puis les parents sont contents. Les parents se disent, s'il y a un changement, non. Dans le cas de mon enfant, j'ai le droit de le savoir. Et le prof va être obligé de le signaler. Puis dans le cas aussi de toute cette procédure, si on veut, ces traitements, il faut obtenir l'accord aussi d'un professionnel de la santé qui va dire, j'ai examiné l'enfant, voici dans quel état psychologique cet enfant-là se trouve. Éducation. Bon, on attend le résultat du vote à la FAE. On sait que ce sont les profs à Granby qui votent. Ça se fait en quelque temps. Et c'est pas la semaine prochaine avant d'avoir le résultat final. L'autre chose, ça concerne cette volonté de la FAE particulièrement de faire disparaître le dossier disciplinaire d'un prof. Ce qu'on appelle l'amnistie. Et je vous en parlais hier, c'était dans Le Devoir. Patrick Lagacé publie un texte qui résume très bien ce qu'on pense là-dessus, là. C'est-à-dire que, au Québec, des profs, dans le système actuel, peuvent changer de centre de service scolaire et le dossier ne suit pas. Alors, si ce sont des profs qui ont eu des comportements répréhensibles, si ce sont des profs qui, par exemple, et on l'a vu, là, les traces s'effacent, ben, ils peuvent finalement aller travailler ailleurs sans trop de problèmes. Et Québec veut mettre un terme à cette pratique. Tu dis, mais comment ça se fait que tu ne peux pas informer un employeur du passé de la personne? Et là, l'argument, là, est-ce que je crois à la réhabilitation? Quelqu'un qui a un mauvais moment dans sa vie, qui a un blâme parce que, ou une sanction disciplinaire parce qu'il a pété une coche qui, bon. Un casier judiciaire, ça reste aussi, même si t'es réhabilité. Et je pense qu'on devrait permettre un suivi, et c'est pas vrai qu'il y a une... ou mettre des clauses. Parce que là, les profs, les syndicats, ce qu'ils nous disent, « Ouais, mais vous allez pas le défendre, ou la défendre, pas échouer. T'es obligé, la loi m'oblige à représenter mes membres. » Et je veux pas faire d'analogie facile, mais les curés se sont protégés, et ont protégé les pommes pourries en les déplaçant d'une paroisse à l'autre pour étouffer les scandales. C'est pas tout à fait la même affaire, mais un prof, un mauvais prof, peut changer d'école, puis les chances qu'on l'attrape au vol sont quand même assez limitées. Rapidement, il y a le SPVM qui veut créer une escouade spécialisée sur les vols de voitures. On avait une escouade, on l'a fait disparaître il y a plusieurs années, puis là, ben, on se rend compte que finalement, on aurait besoin de ça. Alors, dans la presse, vous retrouvez ça ce matin. Et aussi, c'est la santé publique qui veut réduire la place de l'auto à Montréal encore plus, notamment dans les zones scolaires. Dans un rapport présenté devant la Commission des transports de la Ville de Montréal, la Direction régionale de la santé publique de Montréal dit qu'il y a 420 enfants qui ont été blessés légèrement en 2022, 12 jeunes de 0 à 17 ans blessés gravement et 2 qui sont décédés. C'est une hausse marquée, semble-t-il, et que autour, puis on l'a observé souvent, là, bien sûr, au début des années scolaires, autour des écoles, des gens là, qui font pas les arrêts, des gens qui roulent à une vitesse excessive. Donc, vous allez participer peut-être à ce débat. Est-ce que il y a une façon de changer, de reconfigurer les espaces autour des écoles? Puis je termine en vous parlant du financement politique. Je vais en jaser tantôt avec Jonathan. Mais hier, là, je me suis dit, mais on n'a rien compris au Québec, là. On s'est tapé une commission Charbonneau sur le financement puis la corruption. OK? Les normes ont changé. On est à coût de 100 piastres. Et là, j'entendais tous les ministres dire, hey, on n'est pas achetable pour 100 piastres. Mais pas plus achetable pour 1000 piastres. Pas ça. C'est pas ça pantoute. Un ministre peut pas être un élément qui va attirer des gens qui ont des intérêts dans une assemblée ou un cocktail de financement. un ministre ne devrait pas aller dans ces affaires-là. L'accès à un ministre par des élus municipaux, parce qu'on parle beaucoup de ça, ça ne devrait pas passer par tu payes ton droit d'entrée pour avoir un face-à-face. Puis le PQ n'est pas mieux. Là. Le PQ, à l'époque de Nicolas Marceau, je voyais ça hier, là, organisait du speed dating avec des gens qui étaient prêts à payer. Puis là, tu avais quelques minutes avec le ministre. Fait que je comprends là, qu'on n'est pas dans les scandales de l'époque. Puis dans le financement municipal, avec un chum, c'est un chum, là. Pour l'instant. Pour l'instant, on n'est pas dans ça. Mais je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas retenu la leçon. Et si j'étais à la CAQ, je dirais à Maître Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, peux-tu donner une formation aux élus pour leur expliquer les dangers de ce genre d'activité? Même si sur le fond, l'intention est bonne, les apparences sont épouvantables. Puis hier, là, visiblement, toutes les déclarations, ça prouve qu'ils ont absolument rien compris.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Je regardais ce matin les données au sujet des météos, enfin de la météo et des changements climatiques. Quand vous regardez le mois de janvier qu'on vient de vivre, c'est un mois très doux par rapport, disons, à la normale de saison. Ça ne veut pas dire que l'hiver est terminé. En Europe, ce matin, on donne des données au sujet de la température des océans. Et c'est spectaculaire depuis le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, et ça continue, des températures très élevées. Tout ça pour dire que les changements climatiques deviennent de plus en plus une réalité pour le citoyen. C'est pas juste une discussion un peu philosophique que nous avons, c'est concret. Et on le voit avec ces phénomènes météo extrêmes, que ce soit des inondations, le verglas qu'on a connu, ça va faire un an, assez intense. Également les feux de forêt qui ont ravagé le Québec. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a annoncé hier, en fait, a déposé un projet de loi pour améliorer la gestion de ces sinistres. Monsieur Bonnardel est avec nous, bonjour.
Bonjour, Charcan.
D'abord, quand je regarde ce que vous annoncez, là, est-ce que ça découle directement de ce qui s'est passé avec les feux de forêt?
Ben, c'est certain que c'est une réponse, M. Arcand, aux événements des dernières années, encore plus fortement à celle de la dernière année. Vous l'avez dit, là, que ce soit l'épisode de verglas, les inondations à Baie-Saint-Paul, les feux de forêt. La dernière fois qu'on avait touché à une loi sur la sécurité civile, ça datait du début des années 2000, puis ça faisait suite aux inondations au Saguenay, au verglas de 98. Donc, il y a trois points, je pense, que les gens doivent retenir là-dessus. La première chose, c'est le transfert de responsabilité, la mission de la SOPFEU. Tout le monde a entendu parler de la SOPFEU l'été dernier. Nos combattants du feu qui étaient sous le chapeau du ministère des Ressources naturelles. Puis la mission première de la SOPFEU, ça a toujours été celle de sauver l'industrie forestière, sauver la forêt. Il faut comprendre qu'avec la situation, les situations qu'on risque de vivre dans les prochaines années, puis celles qu'on a vécues l'été dernier, que la mission première change et elle devient celle de sauver des vies. Sauver nos communautés, nos infrastructures névralgiques et en troisième lieu, bien, celle de sauver l'industrie forestière. Le deuxième point, c'est ça le post-mortem qu'on a fait, puis je vous en avais parlé la dernière fois qu'on s'était parlé suite au feu de forêt, c'est de se donner un pouvoir du côté du ministre de désigner des organisations qui vont être chargées de renforcer puis d'accroître les capacités opérationnelles. Ça veut dire quoi concrètement? On prend exemple de la Croix-Rouge, on prend exemple de la SOPFEU. Donc, on aurait une réserve opérationnelle, une réserve civile qui va répondre de façon urgente à des événements, comme vous les avez mentionnés encore une fois, feux de forêt ou autre. Donc, ce serait des sommes qu'on va donner, attitrer donc à ces organisations, à ces OSBL, pour être capable de former des personnes, des hommes et femmes qui seraient répartis sur le territoire pour donner un coup de main aux municipalités qui en font la demande dans des événements extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'on mettrait les Forces armées canadiennes de côté. On pourrait toujours avoir besoin d'eux si besoin est. Mais je veux et on veut une force, une réserve civile qui va nous permettre donc de réagir rapidement. Puis l'autre point important, ben, on s'est rendu compte malheureusement qu'on avait pas souvent les informations adéquates. On va les appeler les générateurs de risque, là, les produits chimiques que certaines compagnies ou entreprises pourraient avoir sur le terrain. Donc, on va donner un pouvoir aux municipalités d'avoir donc un pouvoir réglementaire qui va nous permettre d'avoir un portrait global sur l'ensemble du territoire de ces générateurs de risque au cas où.
OK. Je reprends ça un peu plus en détail. Quand vous me parlez de cette réserve-là, qui peut venir en support aux municipalités. On parle de combien de personnes exactement, puis ils sont équipés de quelle façon?
Bien, ça, c'est je savais que vous me poseriez la question. Je ne veux pas donner de chiffres aujourd'hui, mais je vais vous donner un portrait. Regardez, la Sopfeu, présentement, il y a 250 combattants du feu, puis il y a 400 auxiliaires. Eux m'ont fait nécessairement des demandes, je les ai rencontrés, m'ont dit, Francière, voici le portrait de la situation suite aux derniers événements, voici où on souhaite s'en aller. Eux veulent augmenter leur effectif aussi. Il y aura nécessairement du financement qui va suivre lors du prochain budget. De l'autre côté, ben moi, si je veux une réserve opérationnelle, ça me prend nécessairement des sous. C'est la même chose. Je ne veux pas vous donner de nombre aujourd'hui pour pas monter les attentes, mais on va travailler avec ces organisations qui vont être des partenaires avec nous pour être capables de supporter ces capacités opérationnelles puis de répondre rapidement sans avoir recours à chaque fois aux Forces armées canadiennes.
OK, mais ça veut dire de l'achat d'équipement aussi, j'imagine, quoi, de véhicules?
C'est prématuré, Monsieur Arcand, de vous donner le portrait complet de cette réserve civile opérationnelle. Comme je l'ai mentionné, pour moi, il faut se donner ce pouvoir, il faut adopter le projet de loi, puis je me donne une saison complète, sinon une année complète, pour être capable de travailler avec ces organisations, pour dire, OK, comment on travaille ça, les sommes qui y sont consacrées sont ceux-là, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour être capable de répondre rapidement.
OK, je vais vous donner un exemple lointain, mais réel. Quand il y a eu au Québec la grande crise du verglas, le fameux triangle, on a découvert dans les municipalités qu'on n'avait pas de plan d'urgence. Quand il y en avait un, il était parfois caché dans le sous-sol d'hôtel de ville. Ouais. En 2024, est-ce que toutes les villes du Québec ont un plan d'urgence là, fonctionnel, réaliste?
Bien, ça, on appelait ça un schéma de sécurité civile qui avait malheureusement jamais été mis en œuvre pendant les dernières années. Puis c'est là qu'on va mettre en place une démarche de gestion. Je vous dirais que 90% des municipalités au Québec ont un plan de sécurité civile. 90%. Il reste un autre 10% à travailler, de préparer cette démarche de gestion de risque, puis je le vois sur trois paliers. Les municipalités doivent être prêtes, les autorités régionales que sont les MRC doivent être prêtes, puis c'est nous au-dessus de ça qui vont travailler conjointement avec ces organisations municipales pour être capables de répondre rapidement. Donc, on a du travail à faire avec eux. On s'est rendu compte de certaines choses qui étaient inégales entre les municipalités. On va travailler avec eux autres pour être capable de participer et d'amener cette démarche constructive avec eux. Mais on se rend compte qu'il fallait aller là parce qu'on avait quand même des problèmes avec certains.
OK. Vous parliez tantôt des générateurs de risques, là. On peut penser à des endroits qui représentent un potentiel de danger pour l'environnement s'il y a incendie, inondation. Ça veut dire qu'actuellement, vous n'avez pas le portrait complet là, de où sont les endroits à risque?
Ben pas totalement. Je ne veux pas nommer de société ou de compagnie, là, mais d'entreprise. Oui, l'été passé, on se rendait compte jour après jour de certaines situations, de produits chimiques, de propane ou autre sur le territoire. Puis on se disait, bon, mais on a passé, on se l'est dit souvent, là, on a passé proche de catastrophes. On a réussi à sauver tout ça, mais il reste quand même qu'on peut pas entreprendre la prochaine saison sans avoir ce portrait global. C'est pour ça que cette loi, je pense qu'elle va faire consensus avec les partenaires avec lesquels on a discuté, les fédérations québécoises de municipalités, l'UMQ et autres. Mais il reste que ce pouvoir qu'on va leur donner va être important pour être capable d'avoir un portrait global. Sinon, ça peut pas nous exposer au visage à la dernière minute en se disant comment ça se fait que c'est là. Ça.
L'autre question que beaucoup d'auditeurs soulèvent, est-ce que ça donne plus de pouvoir au gouvernement du Québec de décréter des évacuations, des mesures particulières? Autrement dit, là, les gens se rappellent un peu la période de la pandémie, l'état d'urgence. Est-ce qu'il y a dans votre projet de loi des mesures où le citoyen peut se faire imposer plus de mesures, là, si on veut?
Non, ben, le citoyen, dans la démarche de sécurité civile, on va toujours dire aux citoyens de se préparer. Dans une démarche de sécurité civile, ce que je dis aux gens qui nous écoutent, ben vous devez toujours être prêt pour un minimum de 72 heures. S'il arrivait un événement, on perd l'électricité, inondation ou autre, on dit aux gens, soyez prêts au moins pour 72 heures, puis après ça, ben c'est la Croix-Rouge puis c'est d'autres partenaires qui rentrent en ligne de compte. Le pouvoir qu'on va se donner, puis que j'avais pas du côté gouvernemental, c'est le pouvoir d'évacuer ou de réintégrer. Bon, on s'est rendu compte, encore une fois, qu'il y a certaines situations où quand tu donnes pas les événements, mais le compte-rendu d'une situation aux élus en leur disant, ben voici ceci, voici cela, voici cela. Puis là, ben la recommandation qu'on vous donne, c'est celle-ci. Puis que là, ben tu te dis, ouais, ben là, on peut s'attendre une journée de plus. Moi, mes gens veulent réintégrer. Puis on leur dit, non, le danger est encore trop proche. Ben on va se donner ce pouvoir de outrepasser une décision. Puis c'est pas comment dire, je veux pas dire aux élus, ah, vous faites pas un bon travail. Puis mais il reste que je pense que ce pouvoir ministériel doit être important s'il y a danger de mettre la vie en danger, donc, d'une population.
Vous savez que vos amis des complotistes, ils voient là une autre façon de l'État de venir se mêler de nos vies, là.
Ouais, ben là, M. Arcan, moi, le but de cette loi, c'est de trouver une réponse au cynisme, mais c'est le but premier, c'est de sauver des vies, c'est de sauver des communautés. Puis je le fais bien humblement en ayant parlé à beaucoup de monde, en ayant parlé à beaucoup d'organisations. Puis je pense que la réponse qu'on donne aujourd'hui va être bonne pour les... Peu importe qui va être ministre à ma place dans les prochaines années, je pense qu'on va avoir une bonne loi.
OK, on est au mois de janvier. Est-ce que déjà vos équipes, quand ils analysent les conditions météo, le genre d'automne qu'on a eu, l'été qu'on a eu, l'hiver qui est en train de se passer, ils sont en mesure de vous dire, Monsieur le ministre, là, on a une saison d'inondation à risque, il peut y avoir tel ou tel phénomène. Est-ce que vous avez déjà un portrait un peu de ce qui s'en vient?
Ouais. Ben on regarde toujours la situation. Ben c'est certain que les modèles météo que nous avons avec les couverts de neige. Bon, le couvert de neige est un peu moins important dans le sud du Québec, mais il est quand même assez quand on monte un peu plus haut. C'est un peu prématuré d'évaluer la situation pour les prochaines semaines, sinon les prochains mois. Mais il reste qu'on est déjà aux aguets, on se prépare, même si on est juste au début février. Il reste quand même que la saison peut arriver rapidement. Il peut y avoir d'autres tempêtes en février, en mars. Mais on devrait être prêt comme on doit l'être là, chaque année pour être capable de répondre à ces cyniques.
OK. La presse, sur un autre front, là, dit ce matin que le SPVM veut créer son escouade spécialisée pour lutter contre le vol de voitures. Et je cite, le SPVM fait des démarches auprès du gouvernement du Québec justement pour créer cette escouade. D'abord, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on va avoir une escouade spécialisée sur les vols de voitures.
Ben, Monsieur Larkin, il existe déjà. La SQ, la Sûreté du Québec, a mis sur pied en mars 2022 le projet Recherché, qui est en collaboration avec la GRC, le Service de police de la Ville de Montréal, puis d'autres corps de police municipaux. On a déjà des bonnes statistiques comme telles depuis mars 2022. Ça fait à peine 2 ans. On a retrouvé 548 véhicules, 280 conteneurs ciblés. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, mais il reste que ce projet fonctionne. Il est déjà là. La Ville de Montréal, bon, semblait pas enclin à vouloir continuer avec nous là-dedans. Je les invite à continuer de participer à cette escouade, à ce projet pour être capable de répondre aux multiples vols qu'on voit. Maintenant, dans l'autre aspect, vous le savez, il y a un sommet qui va avoir lieu la semaine prochaine avec mes partenaires provinciaux et avec le ministre Leblanc. On a soulevé le sujet quand on était ensemble à Bromont là, l'année dernière, à la fin de l'année. Pour moi, c'est un sujet immensément important qui coûte immensément cher à la population, aux assureurs et nécessairement aux gens qui nous écoutent qui se font voler leur véhicule. Donc, on a des pistes de solutions. On va mettre ça sur la table avec les partenaires, surtout avec le fédéral, puis on va voir la suite pour être capable de répondre à tout cela.
Oui, mais la réalité, c'est que Montréal est une plaque tournante des vols de véhicules. Puis c'est 1000 véhicules par mois de volés à Montréal. Ça ne veut pas dire que ça part au complet pour l'étranger, mais quand même, là, que Montréal soit la porte qui permet aux voitures volées en Ontario de prendre la route de l'Europe, par exemple. C'est-à-dire, on a déjà eu à la police de Montréal une escouade spécialisée sur les vols d'auto, puis on l'a démantelée il y a plusieurs années.
Ouais.
Peut-être que c'est le temps de revenir à ça.
Ben, vous avez raison, sauf que présentement, la Sûreté du Québec, certains corps de police travaillent tous en collaboration, même avec l'OPP de l'Ontario, la GRC, l'Agence des services frontaliers. On doit tous se mettre ensemble. Oui, Montréal est une plaque tournante immensément importante. Le port en est un, parce qu'on dit que 40% des véhicules partent à l'exportation, ce qui est immensément important. Est-ce qu'on fait assez d'efforts? C'est tout cela qu'on va regarder avec nos partenaires la semaine prochaine, mais on a des pistes de solutions, puis on devra arriver avec des solutions.
OK, dernière question. Avez-vous des nouvelles de l'enquête du BEI sur les fuites à l'UPAC?
J'ai pas de nouvelles parce que je ne demande pas de nouvelles quand, concernant ces enquêtes, monsieur Arcan, mais j'ose croire et j'espère que dans les prochaines semaines, on aura des réponses adéquates à tout ça.
OK, ça c'est un souhait. Ça veut dire que vous le savez pas si c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années?
J'entre pas, puis je c'est pas mon devoir et c'est de demander où vont les enquêtes, comment avancent les enquêtes, parce que il y a un mur de Chine pour moi.
Non, mais après 5 ans, là, me semble qu'un ministre a le droit de dire c'est-tu pour cette année?
Je le savais que vous me poseriez la question, mais j'ose croire que ça va répondre. Ils vont répondre rapidement.
Mais quand vous saviez que j'étais pour vous poser la question, avez-vous préparé une réponse?
Oui, mais c'est ça. Vous me connaissez, je suis pas du genre, puis mon équipe va pas appeler en disant « Hey, le BEI, grouillez-vous parce que on est en entrevue ce matin. » Ils ont un travail à faire, ils le savent très bien. Je le sais que ces enquêtes sont immensément longues, mais j'ose croire qu'il y aura une finalité bientôt.
Parfait. Merci, M. Bonnardel.
Salut.
Au revoir. Bonne journée. François Bonnardel est le ministre de la Sécurité publique.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Ah ben, si vous pensez à quitter la maison familiale pour aller vivre en appartement, si vous êtes un nouvel arrivant, par exemple dans le Grand Montréal, si vous êtes en train de vivre une séparation et que vous cherchez un logement, dites-vous que la situation est absolument hors contrôle. D'après les chiffres, c'est le pire marché pour les locataires depuis les années 80. Ce sont les données, donc, de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Francis Cortellino, économiste et responsable de l'analyse du marché de la région de Montréal à la Société, est avec nous. Monsieur Cortellino, bonjour.
Bonjour.
Donnez-moi un portrait rapide. Quand on dit que c'est le pire depuis les années 80, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Bien, grosso modo, notre enquête actuelle, on compile les données à peu près depuis la fin des années 80, et donc le taux d'occupation a atteint un creux pour le Canada à 1,5% en 2023, et dans le cas du Québec, à 1,3% seulement de taux d'occupation pour tourner 20 ans en arrière là, en 2003 pour avoir un taux aussi faible. Et avec des taux aussi faibles, en conséquence, on a des hausses de loyers records aussi. Par exemple, pour un 4,5 dans la province, on parle d'une augmentation de 8%, qui est aussi, encore une fois, un niveau absolu qu'on n'a jamais atteint depuis au moins les années 80.
OK, je veux découper ça un peu. Parlons du Grand Montréal, d'abord. Ça veut dire qu'il y a, évidemment, cette difficulté de trouver des logements, vous le dites. Il y a aussi le fait que les logements coûtent plus cher. Est-ce que, quand vous regardez le portrait, c'est comme un coup de poing qui nous arrive ou, au contraire, c'est une tendance là, qui n'est pas à la veille de changer?
Mais je dirais que si on enlève la pandémie, qui est un peu bizarre avec la fermeture des frontières, il n'y avait pas d'étudiants, pas de migration internationale. Si on enlève cette période-là, on voit depuis quelques années vraiment un marché locatif qui se resserre. On construit beaucoup d'appartements locatifs dans le Grand Montréal. L'offre augmente, mais la demande est trop forte. Il y a deux importants facteurs. Le ralentissement d'accession à la propriété, vous en parliez il y a quelques instants, c'est très difficile pour les jeunes ménages, l'achat de cette première maison, ce premier condo. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus locataires que les jeunes du même âge, il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, on ne libère pas les appartements locatifs comme auparavant. Et donc, ça renforce la demande locative. Et l'autre grand facteur, la migration internationale. Depuis quelques années, on a un nombre record après record de résidents non permanents qui s'installent un peu partout au Canada et aussi dans la région de Montréal. Et 90% des résidents non permanents sont des locataires dans le Grand Montréal. Donc, ça aussi, ça vient renforcer la demande locative. Et en fait, encore une fois, avec un taux d'occupation qui frôle les 1,5% cette année.
Mais est-ce que ça veut dire que les jeunes, par exemple, demeurent locataires plus longtemps parce qu'ils n'ont pas la capacité d'acheter une maison ou un condo?
Oui, en effet. Donc, auparavant, on voyait les jeunes, par exemple, les jeunes des années 2000 à 2010, on voyait les jeunes devenir propriétaires de plus en plus rapidement. Il y avait de moins en moins de locataires. Il y a après 5 ans, la tendance est inversée. Les jeunes sont locataires de plus en plus longtemps. Et probablement que ça indique qu'ils ne sont pas capables d'acheter ce condo, cette maison-là. Et lorsqu'on se transpose à Toronto, Vancouver, c'est encore pire que Montréal, ces jeunes-là qui restent locataires plus longtemps. Donc, on peut voir que l'incidence des prix les taux d'hypothécaires élevés a vraiment un impact là, sur le marché locatif en ce moment.
Là, je vous lance des pistes. Vous me direz si j'ai raison ou si je suis complètement dans le champ. Le fait que de plus en plus de gens qui vivent seuls, est-ce que c'est un impact important?
Oui, ça peut avoir un impact important parce que ça prend plus de logements. Par contre, si on regarde ailleurs au pays où la composition des ménages peut être différente, donc peut-être moins de ménages seuls dans d'autres régions du pays, les taux d'occupation tout partout sont aussi de 1 % à 2 %. Donc, c'est pas le seul facteur qui rentre en ligne de compte. Comme je vous disais, la migration internationale, le ralentissement de l'accession à la propriété sont des grandes tendances d'autres. Et après, vous pouvez avoir pour certaines provinces d'autres petits éléments qui s'ajoutent, qui font en sorte qu'on a besoin de plus de logements. Mais grosso modo, on voit que la situation est très difficile là, de l'Est en Ouest au Canada.
OK. L'autre question. Est-ce qu'on construit les choses nécessaires? Autrement dit, est-ce que quand on donne un permis de construction sur un terrain puis que c'est une tour de condo avec, je sais pas moi, une chambre à coucher, deux chambres à coucher, disons que c'est pas idéal pour une famille. Autrement dit, à Montréal, est-ce qu'on construit ce dont la population a besoin ou si on répond à ce que les promoteurs veulent?
Bien, je vous dirais que si on regarde du côté du condo, c'est mort au Québec et à Montréal depuis plusieurs années. Donc, au moins, on fait ça beaucoup plus de locatifs, donc on ajoute de l'offre. Dans certains sens, je dirais que se construit encore beaucoup de deux chambres à coucher, mais peut-être plus à l'extérieur de Montréal. Dans la région de Montréal, avec les coûts de construction élevés et les taux hypothécaires élevés, lorsqu'on construit, c'est très difficile d'avoir un 4,5. Un loyer raisonnable pour une famille bien habitée. Donc, il y a des besoins très grands pour les 4,5-5,5. On en construit moins, parce que c'est très difficile à rentabiliser. Par contre, lorsqu'on regarde quand même les constructions récentes construites dans les trois dernières années à Montréal, les taux d'occupation sont seulement d'à près 3-4 %. Ça veut dire quand même 95-96 % de ces logements-là qui sont occupés par des ménages. Et on peut se demander si on ne les avait pas construits, quelle serait encore la situation. Ça sera encore plus difficile dans la situation à Montréal en ce moment. Sur la porte, toutes les unités-là qui avaient été construites au cours des dernières années.
L'autre question, est-ce que dans le Grand Montréal, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a assez d'espace pour construire? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a assez de terrain? Est-ce qu'il y a assez d'endroits qu'on peut revitaliser? Est-ce qu'on peut concrètement répondre aux besoins de logement quand vous regardez le territoire?
C'est une très bonne question et la communauté métropolitaine de Montréal a fait un exercice et est en train de le refaire présentement. Où ils regardent le nombre d'espaces vacants pour le développement, mais aussi les espaces à redévelopper. Par exemple, des anciens terrains industriels qui peuvent être convertis ou on peut démolir l'ancienne usine et faire des logements dessus. Et selon leur calcul, oui, en effet, il y a assez de territoires dans la région de Montréal, d'espaces vacants, de terrains à redévelopper pour absorber la croissance démographique des années futures dans un contexte de densification. Donc, oui, il y a assez de terrains. Malheureusement, en ce moment, le contexte est très difficile pour la construction. Il va falloir trouver des solutions à court et moyen terme pour accélérer la cadence parce qu'on voit que des taux d'occupation là, qui, partout au Québec, sont sous les 2 %. On a besoin criant de plus de logements sur le territoire.
Parce que je me souviens de la crise, justement, de logement dans les années 80. Il y avait un programme qui s'appelait Corvée Habitation, puis c'était justement pour stimuler la construction résidentielle. Ça prend, à un moment donné, comme un plan de match. Sinon, si chacun y va de son côté, ville par ville, ça donne pas beaucoup de résultats.
Oui, il va falloir que je pense que tout le monde s'améliore, que ce soit tous les paliers de gouvernement avec leur boîte à outils qu'ils ont, l'industrie privée, tous les milieux communautaires. Donc, tout le monde doit travailler, je pense, ensemble pour trouver des solutions et accélérer la cadence pour faire en sorte que lorsqu'on a un bon projet, que l'espace est disponible, bien, que le projet peut démarrer le plus rapidement possible et faire en sorte que des ménages puissent s'y aménager, encore une fois, là, et soulager un peu la tension qu'on a sur le marché.
Parfait. Merci, M. Cortolino. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Francis Cortolino est économiste et responsable de l'analyse du marché de la région de Montréal à la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Maintenant, le ministre Bernard Drainville veut faire en sorte que les enseignants qui changent de centre de service scolaire, qui changent de poste, donc, voient le dossier disciplinaire suivre le prof et non pas bénéficier après un certain temps de ce qu'on pourrait appeler une amnistie, donc que le dossier s'efface. Évidemment, réaction de la FAE hier ou avant-hier, qui est pas très, très chaude à l'idée. J'en parle avec Éric Gingras, qui est le président de la CSQ. Monsieur Gingras, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Vous, êtes-vous d'accord avec le fait que le dossier devrait s'effacer ou pas?
Ben, c'est deux choses, hein. Le dossier qui suit, c'est une première chose. Dans le projet de loi, ce qui est écrit, c'est que lorsque tout le nouveau personnel, parce que c'est pas juste les enseignants, c'est le personnel de soutien professionnel, remplissent la déclaration d'antécédents judiciaires, donnerait son consentement pour que les données puissent suivre. Ça, on s'est pas prononcé contre. Donc,
êtes-vous pour?
Ben, on vit avec. On va le dire comme ça. Il y a des notions juridiques qu'il faut voir, mais on comprend le principe, alors on ne s'est pas prononcé contre. L'autre élément, c'est celui des choses qui doivent s'effacer. Et là, ce qu'on recherche, c'est un certain équilibre, parce que le projet de loi, là, c'est tout. C'est-à-dire tout comportement pouvant laisser craindre. Donc, ce faisant, ça va du prof qui pourrait crier et se faire réprimander à celui qui commet un acte grave. Nous, ce qu'on dit, c'est il y a un équilibre à trouver, puis on pense que les milieux devraient trouver des façons d'avoir des manières différentes d'appliquer des délais, etc., en fonction du geste posé. C'est pas la même chose, là. Et c'est là qu'on parle de réhabilitation puis d'amendement. Une personne qui va, vous l'avez déjà dit, péter sa coche une fois. Est-ce qu'on peut ramener ça 12 ans plus tard? La base...
Mais ça dépend. Si elle pète sa coche régulièrement, puis je ne sais pas. Si à chaque fois ça s'efface, je peux pas le savoir.
Ouais, mais c'est ce bout-là. Il le fait une fois, est-ce qu'on peut le ramener au bout de 12 ans parce qu'il se passe quelque chose? Ce bout-là, moi, je dois vous dire, même les experts disent, ça n'a pas de bon sens. Au Québec, il y a toujours des délais. Par contre, pour ce qui vous dit de le refaire à plusieurs reprises, si ça s'efface au bout d'un an, là, c'est parce qu'il l'a pas fait pendant un an.
Oui, mais la réhabilitation, là, j'ai un dossier criminel, là, je suis réhabilité, je crois à ça, mais mon dossier va me suivre.
Ben, ça dépend. Il y a tout dépendant des gestes que vous
posez. Non, je parle de dossier criminel. Là.
Vous pouvez demander votre pardon? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a droit à la réhabilitation, M. Arcand.
OK, on va se parler franchement.
Oui, on se parle toujours franchement.
Je le sais, mais on va essayer de le faire encore plus ce matin.
Parfait.
OK, quand on regarde ça, là, moi, là, mettons que je suis l'employeur, en général dans la vie, puis il y a un employé qui me cause des problèmes, c'est un employé là sur lequel je bâtis mon dossier. Le syndicat va me dire, si t'as pas de dossier, tu peux pas le mettre dehors. Comment ça se fait que t'as pas de dossier? C'est à toi de bâtir un dossier.
Ouais, mais c'est un geste grave, M. Arcand.
Attendez, si le dossier s'efface, OK, comment allez-vous savoir que ce prof qui se promène d'un centre de service scolaire à l'autre a pas eu des démêlés puis qui est pas parti pour rien?
S'il le fait régulièrement, ça s'effacera pas. Parce que ça reste là.
Non, mais régulièrement, c'est... Après combien de temps ça s'efface?
Ben, c'est un an, à peu
près. OK, mais moi, je reste un an, m'en vais ailleurs.
Les cas... Non, écoutez, M. Arcand, là, les cas là, qui nous sont rapportés, là, on les lit, là. Ça dit, tout le monde est au courant dans la communauté. Le prof, là, il n'y a pas du monde. Ou la TES n'est pas du monde. Tout le monde est au courant. Les profs, le personnel est au courant. C'est pas vrai qu'il le fait juste une fois durant l'année. Écoutez, puis combien de fois on entend des cas depuis des années... Ou quand on gratte, on dit les directions ou l'employeur était au courant et n'a rien fait. Tu sais, il y a beaucoup prêt à prendre nos affaires. C'est pour ça que je vous parle d'un élément équilibré en fonction de l'acte qui est posé. Pour moi, là, une personne qui va crier trop fort une fois, moi, je pense qu'il puisse s'amender. Il y a quelque chose d'important.
OK, mais que ça soit d'autres habilités. Il paye pas sa job. Il est amendé. C'est parfait. Ben, mais si c'est quelqu'un qui, dans un contexte, recommence 2 ans après, 3 ans après, puis on l'efface encore après 3 ans, puis ça recommence 2 ans après, il y a peut-être un problème plus important avec ce prof-là. Si je ne le sais pas, si c'est effacé, comment je fais pour décider si je l'embauche ou pas?
Moi, ce que je vous dis, c'est que les éléments, là, écoutez, si ça se passe aux 2 ans ou 3 ans, ces éléments-là, moi, je vous dis, là, les cas, là, c'est soit un ou l'autre. Quelqu'un qui fait une fois qu'il s'amende, là, ça se produit régulièrement. Et ça, c'est la majorité des cas. Faut se le dire. Les autres éléments, ceux que c'est plus grave, on peut ne pas passer par ça, puis aller directement sans gradation, puis y aller avec... Écoutez, si c'est des petits cas qui se font une fois ou 2 ans, c'est pas si grave que ça, là. La personne va se réhabiliter, elle vit un moment difficile, puis là, on parle pas de gestes posés. Tu sais, des gestes graves envers un élève, ça, même pas besoin de sanction, même pas besoin de clause d'amnistie, il peut y avoir une sanction, puis plus la sanction est élevée, plus ça reste longtemps.
Okay.
Mais les directions d'école ont le devoir aussi de faire la job.
Absolument, absolument. Mais moi, ce qui me jette à terre, c'est qu'un président de syndicat me dit sérieusement ce matin que pour la réhabilitation, il faut effacer des dossiers. Et le même président de syndicat viendrait me dire, si je mets quelqu'un à la porte, c'est à toi de bâtir un dossier sur lui.
Ben, moi, je ne vous ai pas dit ça.
Non, mais j'entends ça régulièrement dans le milieu de travail.
Oui, mais moi, ce que je veux dire...
Tu sais, il faut de la gradation, il faut que tu ailles par étapes.
Oui, mais ça là-dessus...
Un avertissement, un deuxième, un troisième, une suspension.
Je vais me permettre d'être nuancé là-dessus, M. Arcand. Moi, l'indéfendable, là, ça se défend pas. OK? Alors, quand quelqu'un fait quelque chose de pas correct, on a le devoir de le représenter, pas de le défendre. Puis si on regarde ses droits puis ça n'a pas de sens, on n'est pas obligé de le représenter. Mais je pense quand même que la grande majorité des cas, il y a une place à réhabilitation, il y a une place pour s'amender. Et justement, pourquoi est-ce que, et quand on parle dans notre mémoire qu'on a déposé, on dit, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas négocier? Puis en plus, justement, dans le document qui va suivre, là, hein, parce que c'est ça qui est proposé dans le projet de loi, on met pas qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne se réhabilite. Ça pourrait être intéressant, ça aussi. Alors, est-ce qu'il a fait une thérapie? Est-ce que, parce qu'il peut y avoir des gestes à un moment difficile. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est une façon équilibrée de permettre de suivre une personne qui va pas bien. Parce que la majorité, vous le savez comme moi, là, je dis pas le pourcentage, mais la grande majorité font bien leur travail. Puis des fois, mais il peut y avoir des écarts de conduite.
Mais c'est justement. Je veux dire, tu peux faire ton travail
de la manière
correctement, puis tu le fais, puis si... OK, t'as dérapé. Parfait, on le note, puis ça se reproduit pas, tant mieux. Il n'y a pas de conséquences.
Mais de la manière qu'est construit le projet de loi présentement, on pourrait faire référence 10, 12 ans plus tard, et ça, ça n'a pas de bon sens. Et ça, c'est... Il n'y a aucun endroit dans le droit, là, où on ferait ça présentement. D'un geste, et puis je vous le dis, là, c'est pas un geste qui est aussi grave que des mesures criminelles, etc. Non, mais... C'est un geste qui est posé. Le prof, par exemple, je vous le dis, là, ça arrive. Je vais vous donner un exemple concret. Un prof, il est dans le cours de récréation, un personnel de soutien, et prend par le manteau l'élève, l'amène dans le rang. Un classique, on a déjà vu ça, ça se retrouve dans son dossier. Bon, 10 ans plus tard, il commet le même geste. Si je me fie au dossier, il y aura une gradation. Et c'est pour ça que je vous dis, en fonction des gestes posés, ça prend un équilibre. Laissons les milieux, je ne dis pas qu'on est contre, okay. Laissons les milieux okay. trouver
Mettons
une façon.
Vous me prenez un cas banal, mais on vous en donne un plus sérieux.
Allez-y.
Okay. Quelqu'un qui a des comportements et des attitudes inacceptables avec des ados, OK? Puis il y en a eu, là, qui se sont faufilés dans le système, puis qu'actuellement, ce que le ministère nous dit, il faut que j'aille sur Google pour savoir ce qui se passe, parce que j'ai pas ça dans son dossier. À l'époque, l'Église catholique avait des curés pédophiles, puis pour les protéger, ils échangeaient de paroisse. Nous autres, on a du monde un peu tout croche qui change de centre de service scolaire. Y a-tu moyen d'arrêter ça?
Moi, ce que je vous dis, c'est que souvent les syndicats, moi, je l'ai fait souvent, là, je suis président de la centrale, là, je m'occupe moins de ça, là, mais quand j'étais à mon syndicat local, c'est les syndicats souvent qui interpellaient l'employeur et qui disaient, ces profs-là, là, sont dénoncés par leurs collègues, faites quelque chose. Moi, je n'ai pas la possibilité, comme président de syndicat, d'intervenir, de donner une sanction. Mais je dis à l'employeur, faut régler le problème. C'est sûr que moi, je vais tenter de m'assurer que ces droits sont respectés, là. Mais je défendrai pas l'indéfendable. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que dans un cas comme ça, là, les syndicats, moi, je peux vous dire que ça se produit très souvent, que les syndicats interviennent, puis les syndicats se parlent entre eux autres. Mais là, c'est okay, l'employeur de faire le travail.
OK, mais le prof, OK, vous avez réussi, il s'en va.
Oui.
S'il change de centre de service scolaire, puis on ne sait pas ce qui s'est passé à l'autre...
Présentement, moi, ce que je vous dis, c'est qu'en fonction,
vous avez fait votre
projet
job.
De loi.
Vous l'avez sorti d'un sens.
Je comprends.
Il est rendu ailleurs.
Mais dans le projet de loi, ce qu'on vous dit, c'est allons négocier dans les différents centres de services pour que les durées soient différentes, pour que l'encadrement soit différent en fonction du geste posé. Je suis désolé, on ne peut pas traiter tous les cas de la même façon. Puis quand on parle de pourri, là, ben moi, là, majorité du personnel ne sont pas pourris. Des fois, commettent des gestes qui sont pas les bons.
Il n'y a personne qui a dit que la majorité des personnes...
Oui, mais ils doivent pouvoir s'amender. Puis ce qui est dans le projet de loi présentement...
On veut juste avoir les outils pour que les pommes pourries puissent sortir puis qu'elles ne puissent pas repousser ailleurs.
Donnons-nous ces outils-là, mais négocions-les pour pas que ce soit les mêmes gestes qui soient plutôt les gestes différents qui aient les mêmes répercussions.
OK. Comment se déroulent les votes de votre côté?
Les votes se déroulent.
OK. Ça penche de quel bord?
Pour l'instant,
là, j'ai vu que le Front commun, c'était assez positif dans l'ensemble.
Oui, ben c'est assez positif dans le sens où les gens reconnaissent certaines avancées, mais les conventions ne règlent pas tout dans le système éducatif québécois. Il y aura une deuxième partie éventuellement où c'est une discussion de société. On parle d'états généraux, on parle de toutes sortes d'éléments de grandes discussions. Le gouvernement n'aime pas ça parler d'états généraux, mais toutes sortes de réflexions à avoir sur ce qui se passe dans le milieu, quel type de milieu est-ce qu'on veut, école à trois vitesses, etc. Ça en fait partie, puis c'est ce que les profs et le personnel de soutien et les professionnels se sont rendus compte, mais reconnaissent que certaines avancées, effectivement. Notamment sur les salaires. Sur les salaires, il y a des avancées. Est-ce que ça aurait été intéressant que notamment les plus bas salariés, le personnel de soutien, ça nous est beaucoup dit, puissent aussi se dire, ben nous, on peut-tu augmenter un peu plus? Il y a des éléments qui continuent à devoir être travaillés.
Est-ce que je comprends que, en gros, le Front commun, là, ça va être oui? et que là, ça accroche avec la FAE, on ne sait pas quel bord ça va se promener. Puis du côté de la FIC, il n'y a pas, il y a même pas d'entente de principe. C'est à peu près ça le portrait. Là.
Ça pourrait ressembler à ça, M. Arcand.
M. Gingras, merci d'être venu ce matin. Éric Gingras est le président de la CSQ.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, on a des chiffres ce matin sur le nombre de médecins qui ont fait le choix d'aller pratiquer au privé, de quitter le système public. On est au-dessus de 500 médecins. C'est évidemment une goutte dans l'univers médical, mais c'est quand même un signal qui est envoyé. Et je vais en parler avec le docteur Marc-André Amiot, qui est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Docteur Amiot, bonjour.
Bonjour.
500, c'est pas énorme, là, compte tenu du nombre de médecins, mais quand même, là, c'est, je dirais, pas un signal d'alarme, là, ça serait peut-être exagéré, mais c'est une indication de ce que beaucoup de médecins pensent du système public.
Ben, tout à fait, hein. Ça démontre les difficultés qu'ont les médecins de famille à travailler dans le réseau public, le peu de ressources qui sont mises à leur disposition pour offrir des services à la population. Là, puis ne nous méprenons pas, là, nous, on milite pour un régime universel, gratuit, accessible pour la population québécoise. Donc, ça ne nous plaît pas de voir cette situation-là.
Est-ce que vous savez qui sont, c'est quoi le portrait de ces médecins qui quittent pour le privé?
Il n'y a pas de portrait typique. Ce qu'on semble remarquer, c'est que il y a de plus en plus de jeunes médecins qui ne pratiquent même pas dans le public, là, ne débutent jamais leur pratique dans le public. Donc, ça devient un exutoire à tous les contraintes qui sont mises sur nos médecins de famille quand ils commencent leur pratique. Vous savez, ils sont visés par des activités médicales particulières, des plans régionaux d'effectifs médicaux. Ce sont toutes des contraintes qui font en sorte que, je vous donne un exemple bien simple. Si un médecin de famille termine sa formation à Montréal ou à Québec ou dans un grand centre et son conjoint, sa conjointe ne peut pas aller à l'extérieur de Montréal, mais il y a un nombre limité de médecins qui peuvent s'installer à Montréal. Si ce médecin-là n'est pas choisi dans le lot, ben tout ce qui s'offre à lui, c'est d'aller vers le privé d'encaisser une pénalité dans le régime public.
Là, vous allez relancer le débat du service public obligatoire pour des élèves, des étudiants en médecine qui deviennent médecins puis qui ont une formation qui coûte pas mal moins cher qu'ailleurs.
Ben, je dis, on relance ça.
On va relancer ça parce que. Docteur Amiot, vous me dites, des jeunes médecins, ils mettent même pas le gros orteil dans le système public. J'ai payé avec mes taxes leur formation. M'attends un petit retour sur l'investissement.
Le problème, c'est pas d'ajouter des contraintes. Il faut rendre les conditions de pratique intéressantes. Puis, moi, là, si on applique cette règle-là aux dentistes, aux pharmaciens, à tous les autres professionnels, aux ingénieurs, si on applique cette règle-là puis qu'on est équitable avec tout le monde, moi, je suis d'accord avec vous, M. Arcand. Mais s'il vous plaît, on ne traitera pas les médecins de famille dans une catégorie à part en disant eux, là, on va leur taper davantage sa tête, là, puis ça va servir les intérêts du Québec. Vous comprenez ce que
non,
je veux dire?
Non, je comprends très bien, mais si je reviens à la, je dirais au problème de fond, il y a des médecins qui pratiquent au privé et qui disent avoir vécu, là, contrairement à ces jeunes médecins, qui ont vécu dans le réseau public et qui ont cette espèce d'écœurantite du réseau qui les empêche de travailler comme ils veulent, de prendre un certain nombre de décisions professionnelles et qui décident de partir dans une clinique ou dans un réseau de cliniques et qui le font parce qu'ils ont l'impression d'offrir un meilleur service aux patients parce qu'ils ont le temps de le faire. Puis en parallèle, ce qu'on remarque, parce que l'accès est bien difficile, il y a des gens qui sont prêts à payer une clinique privée pour une otite la fin de semaine parce que ça ne leur tente pas d'aller à l'urgence puis d'attendre 15 heures. Donc, avez-vous l'impression, ma question c'est la suivante, que le nombre de médecins au privé va continuer d'augmenter?
Si on ne corrige pas la situation actuellement, oui. Je réponds clairement à votre question, mais le problème, là, c'est pas le privé versus le public. Le problème actuellement dans le réseau de la santé, là, un, les médecins ne sont pas les seuls à quitter le régime, on le voit chez les infirmières, les autres professionnels, mais la principale problématique chez les médecins de famille, c'est qu'il en manque au moins 1200. Ça, c'est la pénurie que reconnaît le ministère. Moi, je vous dis, si on applique des ratios nombre de médecins de famille par 1000 de population de d'autres pays industrialisés, c'est 1500 à 2000 médecins de famille. Et ça, là, c'est la faute du ministère qui n'a pas bien planifié les effectifs médicaux et qui ne les planifie pas bien encore aujourd'hui.
On va attendre la création concrète sur le terrain de l'Agence de santé. On va tout régler ça.
Regardez dans le comité de transition de l'Agence de santé. Elle est où, la première ligne, dans le comité de transition? On ne la voit pas. Pas du tout. Il n'y a personne dans le comité. Il y a bien du monde là, dans le comité de transition. Trouvez-moi une personne là-dedans qui représente la première ligne. Est-ce que c'est important, la première ligne au Québec? Est-ce que c'est important l'accessibilité de la population à des soins en première ligne? Bien, si je regarde la composition du comité de transition, je le vois pas. Moi, là, je me fie pas à ce que les gens disent. Moi, j'observe des constats, des faits. Et ça, ça m'oriente vers des orientations du gouvernement.
Mais attendez, là, juste pour être bien sûr qu'on se comprend. Vous me dites que dans le comité de transition qui amène vers l'agence, il n'y a pas de médecin de première ligne.
Non seulement il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'intervenant de première ligne. Il y a des spécialistes, il y a des anciens PDG, mais il n'y a personne de la première ligne. Ça vous démontre l'importance qu'on accorde à la première ligne.
L'autre question, je lisais ce matin dans Le Devoir qu'il y a, semble-t-il, de plus en plus de cliniques médicales qui sont gérées par des gens qui ne sont pas médecins, là, qui sont des entrepreneurs, et que, un, ça vous inquiète, puis que, deux, vous êtes en train de dire pratiquement, un peu comme les pharmaciens, pour être propriétaire d'une clinique médicale, il faudrait que ce soit des médecins.
Ben, au même titre, pour être propriétaire d'un laboratoire d'imagerie médicale d'une clinique de radiologie, pour être radiologiste, pour être propriétaire d'une clinique de dentiste, il faut être dentiste, optométriste, même chose. Pourquoi on n'applique pas la même règle? Les préoccupations que les autres professionnels ont, pourquoi nous, on n'a pas le droit de les avoir, ces préoccupations-là? Puis en passant, là, je dis pas qu'il y a des problématiques actuellement, mais nous, ce qui nous inquiète, c'est le potentiel dans le futur, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans.
Mais sauf erreur, il y a juste au Québec où, par exemple, les pharmaciens, c'est un droit de propriété automatique, là?
Ça, je ne saurais vous dire. Donc,
ailleurs, dans le monde, ce sont souvent des propriétaires, enfin des promoteurs. Docteur Amiot, je pourrais m'acheter une clinique puis vous embaucher comme médecin?
Exactement. Ça me fait plaisir de travailler pour vous, M. Arcon.
Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Le docteur Marc-André Amiot est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Mais on sait qu'il y a quand même des enjeux réels, là. Puis j'avais des commentaires ce matin de médecins qui ont vu l'arrivée d'un non-médecin comme propriétaire. Puis ça n'a pas nécessairement tourné de façon agréable.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.